Bonjour à tous. Comme la semaine est vite passée, c'est incroyable, nous sommes à nouveau mardi. Il est 13h, c'est donc le moment de partager des ondes positives. Ça tombe bien, on est là pour ça. Alors je dis « on » parce que bien sûr, comme chaque semaine, je suis en compagnie d'un invité, une invitée aujourd'hui, qui allume des lumières en souriant à la vie. J'accueille Alexandra Focht. Bonjour Alexandra.
Bonjour Dorothée.
Alors tu nous arrives du Gers, Alexandra, où tu exerces le beau métier de relieuse. Tu nous expliqueras ça, bien évidemment, et puis tout ce que tu fais à côté également dans ta vie. Je suis très heureuse que tu sois là aujourd'hui pour nous transmettre ta belle énergie. Et on démarre tout de suite avec ta bonne nouvelle de la semaine. Alors, quelle est cette bonne nouvelle que tu veux nous partager, Alexandra ?
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu lieu à peu près il y a 15 jours un festival qui s'appelle les premières rencontres du féminin sacré et du masculin sacré. C'était une rencontre qui se faisait au nord de Montpellier. Et l'idée a été d'abord de retrouver donc des femmes d'un côté et des hommes de l'autre côté. Et le dimanche, ça c'était vendredi et samedi, et le dimanche, les hommes et les femmes se sont retrouvés.
Mmh.
Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce que, pour moi, parce que ça a été symbole d'humanité. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, des artisans, mais aussi juste des humains de la planète hein, qui avaient envie de se retrouver pour partager leur amour des uns et des autres.
Mmh. D'accord. C'est comme ça que tu l'as vécu, toi. Tu y étais.
Oui, j'y étais.
Ouais.
Et c'était la première fois que ça se faisait.
Mmh.
Et il y a eu une telle émotion le dimanche, lorsque les hommes et les femmes se sont retrouvés, que je me suis dit que c'était vraiment une bonne nouvelle de voir qu'ensemble, on pouvait juste être heureux d'être ensemble,
mmh.
hommes et femmes, complémentaires, et associés dans l'amour qu'on pouvait avoir les uns pour les autres et pour notre planète.
D'accord. Donc en fait, généralement, on trouve des festivals, on dit ça comme ça, hein, pas des festivals, hein, des festivals, on est d'accord, autour d'un thème, un thème thérapeutique ou un thème santé ou un thème artistique, peu importe. Là, est-ce qu'il y avait un thème ou est-ce que c'était tout simplement l'humain ?
C'était l'humain, ouais. En général. Et d'habitude aussi, c'est quand par exemple c'est sur le féminin, c'est que le féminin,
mmh.
et il n'y a pas le masculin à côté.
Mmh.
Alors que là, on avait les deux. Et donc en tant que femme, c'était intéressant aussi de savoir qu'en parallèle, il y avait un festival d'hommes. Donc on était tous ensemble à se découvrir, à découvrir des choses les uns sur les autres, sur nos travails respectifs.
Mmh.
Et ensemble pour avancer.
D'accord. Alors, c'est un festival organisé par une association qui s'appelle Femmes de Gaïa.
Exact.
Ouais. Tu fais partie de cette association-là, toi ?
Non, j'ai été invitée pour y travailler par la présidente qui s'appelle Catherine Darbor.
Ouais.
Et donc, ce mouvement a été créé apparemment l'année passée.
D'accord.
Simplement, c'est tout récent.
Ok.
Voilà.
Et donc, ce sont des femmes de Gaïa qui organisent
oui.
des choses pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Et tu m'as dit que ça favorise vraiment la prise de conscience pour chaque être humain, de notre part, féminine et masculine, parce qu'il y a les deux en nous.
Exact.
Mmh.
Pour on peut être femme ou on peut être homme, mais notre partie masculine ou féminine est aussi importante, sauf qu'aujourd'hui, dans notre société, on a tendance à l'occulter.
Mmh.
Et là, d'être ensemble à cet endroit, à ce moment-là, de favoriser les deux facettes de nos personnalités, ça aide à s'équilibrer aussi. Et les choses redeviennent juste normales et fluides.
Mmh.
De s'accepter tel que l'on est intégralement. Aussi, c'était très fort cette part masculine, pour ma part, surtout lorsque le dimanche, les hommes sont arrivés, et on les a d'abord entendus chanter avant de les voir, et là, en fait, il y a eu une espèce d'émotion générale, en fait, c'était très fort, puisque on prenait conscience de cette part masculine qui avait manqué, finalement, pendant ces deux jours, et dont on avait eu conscience, mais là, c'était physiquement, d'entendre d'autres humains, hommes,
ouais.
qui arrivait au milieu de nous, c'était d'une force. Et donc certains hommes aussi étaient tellement émus qu'ils avaient du mal à marcher aussi. Des femmes pleuraient. Enfin, c'était très
quelle
fort.
Quelle expérience hein.
Oui, très émouvant. En tout cas, ça m'a fait prendre conscience de notre humanité, d'être humain et d'être ensemble sur cette planète.
Et tu parlais de fluidité, et moi j'ai eu l'image de deux vases en fait qui communiquent. Alors je suis du signe du Verseau, alors peut-être voilà les fluides qui s'échangent, deux vases, voilà les. Bon, effectivement, ça parle de réunification et de complémentarité. Arrêtons de cliver peut-être les deux sexes et acceptons pour les femmes qu'on a une part masculine et pour les hommes qu'ils ont une part féminine et faisons en sorte que tout ça s'harmonise en chacun de nous et au niveau de la société.
Et dès l'enfance.
Et dès l'enfance, c'est encore mieux. Alors, bien sûr, je pense qu'il y aura un autre festival dans ce genre en 2018. Hein.
A priori, oui, en mois de mai 2018.
D'accord, donc les personnes qui sont intéressées peuvent aller voir sur le site internet femmedegaïa.com, femme avec un S, de Gaïa, G-A-I-A. .com. Alors donc, est-ce que toi tu te sens, tu nous as dit que tu fais pas partie de l'association Femmes de Gaïa, mais Femmes de Gaïa ça veut dire gardienne de la terre, Gaïa c'est la terre. Est-ce que tu te sens une gardienne de la terre, Alexandra?
Je tâche.
Ouais. Tu fais en sorte.
Je fais en sorte, en tout cas je fais du mieux que je peux de mon côté.
Alors si je te dis ça, c'est évidemment pas par hasard, hein, c'est parce que ton message est quelque part dans cette mouvance-là, hein, et il parle de la Terre, ton message, et de notre relation à elle. Alors je vais le donner dès à présent aux auditeurs, le message positif d'Alexandra, le voici. Allégeons la planète de toutes les manières possibles.
Love is all you need. 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 Love is all you need.
Les Beatles, All You Need Is Love, c'est une première proposition musicale d'Alexandra Focht, mon invitée cette semaine dans Onde Positive. Bon, j'ai envie de dire, tout est dit Alexandra, All We Need Is Love, la seule chose dont on a besoin c'est d'amour.
Oui, je pense que c'est essentiel, on le sait tous, hein, mais entre le savoir et le vivre vraiment, c'est bien de se le redire de temps en temps pour bien l'imprimer dans nous.
Alors ton message positif nous parle d'amour en quelque sorte. Je le répète, allégeons la planète de toutes les manières possibles. Alors qu'est-ce que tu veux nous dire avec un message aussi vaste ? Alléger la planète.
Alors avec ce message, quand je dis alléger la planète, ça veut dire allégeons notre quotidien d'abord, essayons d'en faire moins. Allégeons nos déchets, essayons d'en faire moins, allégeons... En fait, il est très général ce message, mais en même temps, il peut s'appliquer à beaucoup de parties de nos vies. Oui. Donc allégeons notre travail, si on en a... Parce qu'aujourd'hui, on suffoque sous le stress et les contraintes qu'on peut se mettre dans le travail. Allégeons aussi ce qu'on peut faire qui est inutile. Focaliser sur ce qui est essentiel. Mmh. Allégeons nos consciences en parlant les uns aux autres. Allégeons aussi le poids qu'on donne à nos enfants, c'est-à-dire ce qu'on peut leur mettre sur les épaules et qui est nécessaire dont ils n'ont pas besoin aujourd'hui parfois. Donc allégeons ça. Allégeons-nous par tous les moyens en fait. Parce que, donc du coup, l'avantage avec ce message qui est assez général, c'est qu'il me permet, personnellement, en tout cas, de me motiver au quotidien et de me faire avancer quand j'ai des doutes. Mmh. Du coup, quand il se passe quelque chose dans ma vie, que ce soit à mon travail ou dans ma vie personnelle, je me demande si ça allège ou pas. Et si ça n'allège pas, du coup, je vais aller dans ce sens-là. Mmh. Donc ça aide à positiver aussi beaucoup de choses, puisque la douleur ou la tristesse est plus lourde à porter que la joie ou le sourire. Mmh. Voilà. Donc, ou le stress est plus lourd à porter que la gaieté, bien sûr. Donc, ou que l'organisation, finalement. Donc,
on peut ressentir au niveau corporel et au niveau émotionnel ce qui nous plombe, ce qui nous affaisse, ce qui nous tire vers le bas, ce qui nous donne envie d'aller nous recoucher tout de suite, ou au contraire, ce qui nous donne de l'élan vital.
Voilà, il y a ça. Et donc après, si on n'a même pas envie d'aller vers ça, juste concrètement dans le quotidien, s'alléger de tout ce qui nous encombre dans notre maison, s'alléger de nos poubelles, voilà. Donc ça, c'est du concret. Et donc, c'est de commencer par un bout, quoi. Ouais. Parce qu'on peut pas tout faire d'un coup, de toute manière.
Parce que ce concret nous ramène quand même à la philosophie de l'allègement, si je peux dire comme ça.
C'est ça.
Donc c'est le principe d'ailleurs, notamment du feng shui, hein. Laisser l'énergie circuler dans son environnement, dans sa maison, dans son jardin, ça participe aussi au niveau psychique à créer une sorte d'aération mentale et émotionnelle.
Exactement. Mmh. Oui, mais en s'allégeant, et clairement, on voit mieux les choses aussi. On voit plus facilement en s'allégeant dans notre maison, dans notre quotidien, on va voir les choses plus clairement dans notre tête. Et dans notre travail, et dans notre famille, et les choses paraissent plus évidentes. Mm-hmm. Pas à tous les coups, hein, mais ça marche pas trop mal. Mm-hmm. Voilà, donc...
Alors, on a besoin de plus de légèreté, de plus de positif, de plus de simplicité. Hein. Tu nous parles aussi de simplicité, de sobriété. T'es dans le message de Pierre Rabhi, la sobriété heureuse. À quel moment de ta vie tu t'es dit, mais c'est ça, et moi j'ai envie que ça devienne mon leitmotiv, j'ai envie d'alléger la planète, m'alléger moi-même, alléger mon quotidien, alléger les relations dans la famille, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises ça à un moment?
Alors, le début a été lors d'une méditation, où j'ai eu cette phrase qui m'est venue il y a quelques années, et lorsque je l'ai eue, je l'ai prise de façon plus légère, on va dire. En tout cas, je la comprenais moyennement. Mmh. Je me disais, mais pourquoi j'ai eu cette phrase? Je m'allège déjà. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Et en fait, c'est au fur et à mesure de la mûrir, cette phrase, de la faire tourner dans ma tête, que j'ai commencé à comprendre qu'elle pouvait être essentielle pour moi et qu'elle pouvait venir s'intégrer dans mon quotidien. Voilà, mm-hmm. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, d'abord dans du concret, puis après dans ma tête. Et aussi parce que je me rends bien compte que notre planète, nous sommes nombreux sur notre planète, nous fabriquons concrètement beaucoup de choses pour on est censé être mieux avec tout ce matériel. Nous fabriquons aussi beaucoup de pensées et on pourrait penser justement qu'on est mieux avec, et plus on en fabrique, pire c'est, j'ai envie de dire. Mmh. En tout cas, plus il nous arrive de choses qui sont pas sereines.
Oui.
Donc plus le temps avance et plus je me rends compte que c'est essentiel aussi avant de critiquer ou de regarder ce qui se passe chez les autres, de d'abord commencer chez soi. Et donc, en fait, avec cette phrase qui est simple, allégeons la planète ou allégeons-nous, du coup, c'est assez vaste pour pouvoir s'appliquer à tout notre quotidien et d'abord à nous-mêmes.
Oui.
D'abord à nous, la base. Donc, ça s'est fait au fur et à mesure, en fait, au fur et à mesure des années après.
D'accord.
Je me rends bien compte que ça fait très peu de temps, finalement. Ça fait quelques mois que j'ai réalisé que c'était vraiment quelque chose qui me tenait tous les jours.
Mm-hmm.
Alors qu'avant, je m'en rendais pas compte.
Et tu réalises aussi, par là, enfin, tu prends conscience que, petit à petit, que nous faisons partie d'un tout. Tu m'as dit ça en préparant l'émission. Et nous sommes tout. Avec un T majuscule.
Oui. On se répond les uns les autres, même sans parler.
Mmh.
Les humains avec les humains, mais aussi les humains avec les animaux, avec les plantes, avec les arbres, avec notre sol, avec notre ciel, avec... on se répond les uns les autres. Donc, je reste convaincue que si chacun de notre côté, nous faisons notre petite part, comme le colibri, mais aussi... juste, nous tentons de nous alléger, de nous simplifier les choses.
Ouais.
Alors, forcément, ça aura un impact sur notre entourage. Proche et plus éloigné aussi, parce que plus on est nombreux à le faire, bien sûr, plus on va pouvoir agir positivement. Donc, voilà, y compris avec notre jardin, avec nos enfants, nos personnes âgées, voilà, tout ce qui peut, nos animaux. Notre état d'esprit va impacter tout le monde.
C'est cette intention d'alléger les choses qui va transformer finalement notre monde, selon toi. Le rendre plus simple et du coup peut-être plus heureux. En tout cas, dans ta croyance à toi.
Dans ma croyance à moi, oui, ça peut. En tout cas, aujourd'hui, oui, je crois vraiment.
Depuis que tu es dans ce mouvement-là, dans cette intention-là, est-ce que tu as vu, qu'est-ce que ça a changé pour toi ? De façon très concrète dans ta vie, parce que à cause de ça, tu es une femme très concrète. Maman, enfin voilà quoi, t'es pas là en train de planer et rêver toute la journée au fait d'alléger la planète, qui peut sembler comme ça complètement conceptuel.
Qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé mes rapports avec mes enfants, puisque je suis maman, en simplifiant le langage avec eux, en m'allégeant moi. De ce que je pouvais avoir comme difficulté en tant que fille avec mes parents, j'allège la relation que je peux avoir avec mes propres enfants.
Oui.
Et donc, et aussi le discours, donc, par exemple, je vais prendre un exemple concret, puisqu'on a, il y a quelques jours, ma fille a eu quelqu'un qui lui a dit dans un parc, qui lui a dit qu'il allait la déshabiller. Donc elle a 7 ans. Les autres enfants avaient 7 et 5 ans. Avant, je
crois que... Donc des menaces entre enfants.
Entre enfants. Donc il lui a dit, donc excusez-moi, du coup j'avais pas prévu d'en parler, mais je veux en parler parce que ça peut être intéressant. Il lui a, donc ils sont sortis du parc et son grand frère, donc j'ai 2 enfants, et le grand m'a dit qu'ils avaient dit à sa petite sœur, on va te déshabiller et on va te décapiter. Et je demande à ma fille, elle me dit que c'est vrai. À ce moment-là, je vais voir les autres enfants. Donc, chose que peut-être avant, j'aurais laissé couler. J'aurais dit, on laisse passer. Et là, non, je suis allée voir les autres enfants. Je leur en ai parlé. Ils se sont excusés. Et en sortant du restaurant, je me suis dit, faut que j'aille en parler aux autres parents. Donc je suis allée voir les parents qui l'ont très bien pris et qui ont géré ce qu'ils avaient à gérer avec leurs enfants et je suis partie. Et là où ça intervient l'allègement, c'est qu'en fait j'ai réalisé que cette histoire remuait chez moi en tant que femme, tout ce que j'avais pas pu dire à mes parents en tant qu'enfant, lorsqu'il y avait pu avoir des agressions extérieures. Mm-hmm. Notamment quand on est ado, qu'on prend le bus, le train, quand on sort aussi, quand on commence à avoir 18-19 ans, mm-hmm. Mais même avant, quand on a 10-12 ans et qu'on nous dit des choses qui sont pas saines, qui sont mm-hmm. pas sympas, qu'on dit pas aux autres, mm-hmm. tout simplement.
Et qu'on garde pour soi parce que finalement on devient honteux de les avoir reçus.
Exactement. Mmh. On devient honteux. Et donc quand j'ai demandé à ma fille, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit à 7 ans? Et elle m'a dit, mais maman, parce que je savais pas comment t'allais réagir. Et donc je lui dis, mais pourquoi tu crois que j'allais dire quoi? Mais je sais pas, j'étais honteuse. Mmh. Et donc à 7 ans, elle était déjà honteuse. Donc en fait, du coup, moi ça m'a donné l'opportunité d'écrire sur ce sujet. Ça m'a libérée. J'ai pris conscience de tout ce que j'avais pu vivre et que j'avais bien enfoui profondément. Mmh. Et ensuite, j'ai appelé mon père, puisque j'ai plus ma mère. J'ai appelé mon père pour lui en parler et pour lui dire tout ce que j'avais pas pu lui dire quand j'étais ado et enfant. Et là, papa m'a compris. Mmh. Et il m'a trouvé juste aujourd'hui et il a entendu ce que je lui ai dit, que je lui avais jamais dit plus jeune.
D'accord.
Et donc, en disant à mes enfants, il n'y a pas de honte, c'est pas à vous d'avoir honte, c'est d'ailleurs... Je sais pas qui doit avoir honte, peu importe. En tout cas, vous avez à me le dire, il n'y a pas de problème et on peut échanger et on peut résoudre le problème ensemble. Mmh. Ça, avant, je l'aurais jamais fait si je m'étais pas dit que je m'allégeais. Parce que du coup, ça m'a permis de remonter sur moi mes mémoires et de travailler, de mmh. les aider à avancer eux sur leur propre chemin. En espérant qu'ils sachent qu'on les accompagne.
Oui, donc tu as fait un vaste nettoyage, tu as allégé les liens familiaux quelque part.
Par exemple, voilà, c'est
ouais,
ça.
Ouais.
Donc ça, c'est concret, mmh. voilà, dans l'allègement, dans le quotidien. Et ça va être aussi, dans les choses... Bon, voilà, c'était l'exemple qui me venait.
Ouais,
cas.
Ouais,
voilà.
Merci en tout cas de nous avoir partagé cet exemple de ta vie intime mmh. qui montrera bien aux auditeurs comment on peut finalement s'alléger aussi par la parole. C'est pas uniquement dans des actes très compliqués. Parfois, on peut libérant la parole avec ses enfants, avec ses parents, avec d'autres membres de la mmh. famille, on arrive à construire des relations plus légères en fait, plus fluides comme tu disais, mmh. plus simples et plus faciles à vivre. Mmh.
Plus saines.
Plus saines. Mmh. Voilà, suivons la voie de la légèreté, on va retenir ça, et c'est ce que tu fais Alexandra. Alors, raconte-nous maintenant un petit peu ton parcours. J'ai dit en début d'émission que tu étais relieuse. Alors, comment es-tu arrivée à ce beau métier qu'est la reliure d'art dans un premier temps, mais on verra que ce n'est pas que ça, et puis après à l'écriture. Je crois que tout commence en Afrique.
Oui, d'abord j'ai grandi en Afrique, je suis née en Afrique, en Côte d'Ivoire, après on a grandi au Cameroun, et je suis arrivée en France, j'étais adolescente déjà, voilà, on est arrivée en Normandie, ensuite en arrivant à Toulouse, mon père a été muté, et juste quand on est arrivé à Toulouse, ma mère est décédée. Voilà. Et à partir de là, d'abord je me suis, avec ma sœur, on s'est juré de ne jamais rien regretter. Mmh. Donc j'avais 22 ans à ce moment-là et
ça veut dire profiter de la vie. Enfin
profiter, même tenter des choses, mmh. quitte à se tromper mmh. ou à se planter.
Parce qu'on peut mourir jeune. C'était parce que dans l'idée oui. on peut mourir jeune, donc on peut il faut en profiter quoi.
Exactement. Mmh. Et c'est, ça, en tout cas ça peut arriver à n'importe quel moment. Mmh. Donc même si on se trompe quand on choisit un chemin, bah dans le fond c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on perd? Pas grand-chose en fait. Mmh. Donc il faut le tenter. Parce que pour pas regretter
ouais.
d'avoir loupé quelque chose. Maman est décédée quand elle avait 50 ans. On dit que on a encore plein de choses à faire à 50 ans. Mmh. Donc voilà. À partir de là, en fait, j'ai découvert. J'étais en lettres modernes. J'étais en licence de lettres. Et donc j'ai découvert la reliure mmh. à la faculté du Mirail à Toulouse. Et donc j'ai décidé de passer mon CAP art de la reliure en candidat libre mmh. à l'époque. Et j'ai été épaulée par une dame qui s'appelle Madame Mort, qui est une des fondatrices de Erasme, l'atelier de restauration de Toulouse.
D'accord.
En reliure, voilà. Et cette dame est venue m'aider pour préparer mon CAP que j'ai eu. Et ensuite, je suis partie en Bourgogne pendant 2 ans dans un institut qui s'appelle les Ateliers d'Or et qui forme des adultes en reconversion.
Mmh. Voilà.
Donc ça c'est la reliure. J'aime travailler en reliure car en fait j'ai l'impression d'être un peu le docteur des livres et surtout de sauver un patrimoine qui peut s'évaporer rapidement. En tout cas aujourd'hui avec tous les écrans, avec pour moi le support écrit reste essentiel.
C'est une façon de prendre soin des écrits et de ce qui a été transmis au cours des âges.
Exact.
Ouais.
Le relieur a une vraie... Aujourd'hui, je suis relieur d'art et le relieur a une vraie, un vrai travail de conservation du patrimoine.
Mmh.
Voilà,
mmh.
Clairement. Donc, en fait, ça m'a permis de travailler sur des ouvrages anciens, rares, aussi beaucoup de choses uniques,
mmh.
puisque j'ai travaillé aussi pour beaucoup d'artistes. Donc
ça consiste en quoi concrètement? C'est relier les pages entre elles ou c'est aussi soigner le papier par exemple?
Alors ça peut être soigner le papier justement s'il y a des problèmes comme des champignons. Ça peut être aussi, mais c'est aussi surtout d'abord le travail du relieur, c'est de lier les pages entre elles. Donc d'où le mot relieur, parce qu'on lit les pages, on lit les cahiers entre eux pour former un livre.
D'accord.
Donc en fait, ça peut partir de juste de simples feuilles volantes ou de cahiers qui ne sont pas reliés, et on va en faire un livre comme dans les bibliothèques avec les dos en cuir et les dorures.
Voilà. Mmh.
Mais ça peut être aussi des restaurations de livres anciens qui sont abîmés, ou ça peut être aussi le livre de cuisine de votre arrière-grand-mère qui a besoin d'une restauration.
Mmh.
Voilà, et qu'on va conserver dans le patrimoine familial.
D'accord.
Beaucoup de choses, de livres chargés d'émotions en fait aussi. Un patrimoine plutôt émotionnel. Voilà.
Oui, c'est en fait faire un trésor quoi. Conserver le trésor, le ficeler, l'empaqueter, c'est ça. Hein.
Et le rendre à nouveau consultable aussi.
Ouais.
On peut à nouveau l'ouvrir sans avoir peur de le casser.
Mm-hmm.
Voilà, donc en profiter.
Donc tu as créé toi-même ton atelier en 2006, hein, tu m'as dit.
C'est ça.
Relis-moi.
Oui.
Ah, donc déjà on comprenait que ça ne parlait pas que de livres. On pouvait déjà avoir l'intuition qu'il y avait autre chose derrière.
À l'époque, j'avais rêvé dans un rêve la nuit le nom de mon atelier.
D'accord.
Qui s'appelle Relis-moi.
Mm-hmm.
Et donc qui est situé à la limite du Gers. En fait, je suis en Haute-Garonne.
D'accord.
Voilà, à Saverre.
Ok.
Un tout petit village.
Et alors en parallèle, donc ton métier de reliure d'art ou relieuse d'art plus exactement, tu le fais un peu à ta sauce parce que petit à petit on t'a demandé de créer des carnets.
C'est ça. En fait, pendant des années, j'ai travaillé pour des particuliers, des mairies aussi, des notaires, beaucoup.
Mmh.
Et puis, comme je commençais à guider des méditations dans ma vie personnelle, les méditants ont commencé à me demander des carnets pour écrire leurs médites et leurs méditations.
Mmh.
Et quand je leur ai demandé un petit peu ce qu'ils voulaient comme carnet, parce que pendant des années, j'avais fait des marchés de Noël, j'avais fait des salons et je faisais de la reliure vraiment traditionnelle. Et moi, mon carnet à moi était beaucoup plus brut, avec des matériaux naturels collés dessus, en tout cas ficelés dessus.
Mmh.
Et les méditants m'ont demandé de faire ce genre de carnet.
D'accord.
Pour accompagner leur méditation.
Mmh.
J'étais au début étonnée, et puis je leur en ai fait, et en fait ça leur a beaucoup plu. Et donc c'est comme ça qu'aujourd'hui je fais des carnets qui sont en cuir, assez bruts, on va dire. Les bords ne sont pas nettes. En pierre de lithothérapie, en galets, en bois, en plumes de mue d'oiseaux, et pas des plumes qui ont été arrachées aux oiseaux. Elles sont tombées, donc c'est comme des cadeaux.
Mmh.
Et en perles aussi. Et donc l'objectif, c'est de les aider. Au début, c'était de les aider dans leur méditation. Et en fait, aujourd'hui, on me prend des carnets pour accompagner dans le quotidien, et en fait pour que les gens s'allègent et parlent dans leur carnet.
Bien sûr.
D'où mes carnets aujourd'hui, dans ma tête, je les fais vraiment pour alléger la tête, pour aider les gens à s'alléger en fait.
Voilà.
Donc je souhaite qu'ils soient aussi confortables, douillés, assez pour qu'on ait envie de s'y confier en fait.
Ouais.
Voilà, c'est vraiment ça l'idée. J'en fais aussi en coton pour les personnes qui veulent pas d'animaux sur les carnets. Donc vraiment j'essaye
pas de matière animale.
Pas de matière animale, exact. Voilà. Mmh. Donc comme les plumes, c'est des plumes de mue, du coup la question se pose pas. Mais au niveau du cuir, j'en fais aussi en coton, exprès pour qu'ils se sentent assez bien pour pouvoir se confier dedans, écrire. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui en prennent pour écrire leurs rêves, d'autres en prennent pour la naissance d'un enfant et pour lui parler, lui donner quand il sera grand. D'autres en prennent pour écrire pour un anniversaire, d'autres pour des photos. Voilà, et après, ils ont plusieurs supports maintenant, enfin plusieurs utilisations, c'est plutôt ça. Mais l'idée, c'est vraiment de soutenir les gens, voilà.
Oui, parce que les carnets sont évidemment personnalisés, donc ça devient on peut transférer sur ce carnet une partie de soi. On est totalement relié à ce carnet-là, parce que c'est un bout de nous-mêmes, mais qu'on peut mettre à distance, c'est ça.
C'est ça, donc c'est comme un compagnon qui serait là, mais qui en même temps est discret.
D'accord. Mm. Bon, super. Mm. Ça donne vraiment envie d'aller voir tes carnets et te commander un carnet. Allez, pour te connaître davantage, Alexandra, eh bien, c'est le moment de l'interview flash. Et pour toi, je l'ai appelée, dans l'idée de légèreté, tout ça, s'envoler, l'envol. Alexandra, s'alléger toujours plus pour un jour s'envoler. Si tu pouvais t'envoler quelque part, tu ferais quel voyage?
Je crois que j'irai au cœur de la terre.
Que réponds-tu à tes enfants s'ils te demandent quel est le sens de la vie?
Va vers ce qui te comble.
Alexandra, pour sortir du ring, te délester du poids d'un combat, que fais-tu?
Je vais marcher.
Tu es plutôt vol en montgolfière ou saut à l'élastique?
Soit à l'élastique.
Au quotidien, qu'est-ce qui te donne des ailes?
L'amour.
Alexandra, est-ce que tu vis parfois des moments suspendus comme si tu lévitais dans les airs?
Oui.
Peux-tu nous donner un exemple?
En méditation.
Et on finit en chanson, Alexandra.
Par-dessus, et au fil du voyage, se trouvaient quelques recrues. Et même si c'est très loin, moi j'y vais, toi, je sais que tu peux, mais tu fais ce que tu veux. Et même si c'est très loin, tant mieux, ce qui compte c'est le trajet, oh pas de lieu. C'est très loin, moi j'y vais, toi. Tu sais que tu peux, mais tu fais ce que tu veux. Et même si c'est très loin, tant mieux. Ce qui compte c'est le trajet, pas le lieu. Et même si c'est très loin, moi j'y vais, toi. Tu sais que tu peux, mais tu fais ce que tu veux. Et même si c'est très loin, tant mieux. Ce qui compte c'est le trajet. Même si c'est très loin, moi j'y vais, toi. Je sais que tu peux, mais tu fais ce que tu veux. Et même si c'est très loin, tant mieux. Ce qui compte c'est le trajet, ah, pas le lieu. Et même si c'est très loin, moi j'y vais, toi. Je sais que tu peux, mais tu fais ce que tu veux. Et même si c'est très loin, tant mieux. Ce qui compte c'est le trajet, ah, pas le lieu.
Même si si c'est très loin, les frérots de la Vega, et c'est une chanson mise à l'honneur par Alexandra Focht, mon invitée dans Onde Positive. Ah, j'ai envie de te poser la question, mais qu'est-ce qui est très loin encore?
On ne sait pas, mais on y va.
C'est l'inconnu qui est très loin.
Ouais. Et c'est... Mais c'est ça qui est génial en même temps. Enfin, en tout cas, une fois qu'on a intégré le fait que on ne sait pas où on va, mais on y va, ma foi, tout est possible.
Ouais, moi ça me donne l'idée du voyage, du coup. Mmh. Et comme on parlait de tes carnets juste avant, bah c'est comme des carnets de voyage où la vie est un voyage et on va écrire ce voyage-là dans des carnets. C'est les carnets de notre vie, mais c'est aussi des carnets de voyage et c'est aussi le journal intime, le journal de bord. Et j'aime bien cette idée-là, ces carnets qui s'invitent chez les gens, qui viennent bah te les acheter pour se libérer, pour s'alléger par l'écriture. En fait, tout cela a beaucoup de sens. Et tu m'as dit aussi, donc ces carnets, c'est pour écrire, bien évidemment, et tu m'as dit que toi aussi, tu étais passée à l'écriture.
Alors, je m'allège par l'écriture, toujours dans cette optique. J'écrivais quand j'étais déjà ado. J'ai caché ça quelque part au fond de carton. Un jour, je retomberai dessus. Mais j'ai beaucoup écrit en tant qu'ado, puis j'ai arrêté. Et j'ai recommencé à écrire il y a 3-4 ans peut-être. Et avec beaucoup de joie, complètement intuitivement. Bon, j'ai fait des études de lettres modernes, donc peut-être un peu influencée quand même par quelques auteurs. Mais comme si, avec le temps, je m'étais délestée de tout ce qu'on avait pu m'inculquer et m'apprendre de façon académique. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus intuitif et ça me porte beaucoup plus.
D'accord. Voilà. Alors justement, restons dans cette idée de vie intuitive, parce qu'aujourd'hui, ta vie, tu l'as construite, si je peux dire comme ça, ou tu vis ta vie de façon très intuitive. Jusqu'à présent, on a parlé d'un parcours qui semble cohérent, de ton métier, de relieuse, mais aujourd'hui, tout ça est beaucoup plus vaste et beaucoup plus aéré et en même temps relié avec des interconnexions. Ce n'est pas si analytique que ça. Donc j'aimerais bien qu'on ouvre le champ maintenant et que tu puisses nous dire la personne que tu es à côté du métier.
Voilà, depuis que j'ai 22 ans, voilà, je suis devenue relieuse. J'ai donc ouvert mon atelier de reliure. Je me suis mariée avec un Californien parce que le voyage c'est important effectivement et que c'était, je crois que c'est son accent qui avait joué beaucoup. On a eu 2 enfants, tout est très classique, hein. Et il y a à peu près 5 ans en fait, j'ai réalisé que j'avais des perceptions qui étaient un peu différentes d'avant. En tout cas, je me souvenais pas avoir eu des perceptions comme ça. J'entendais et je voyais des choses que d'autres ne voyaient pas, comme les défunts, par exemple. Et il s'avère que je le faisais déjà petite, et sauf que j'avais occulté ça au fond de ma mémoire et que je ne voulais pas m'en rappeler pendant plusieurs années. Et donc, quand c'est revenu en force, alors je me suis rendu compte que ce que j'entendais en faisant des recoupements était juste. Et il fallait que je l'écoute, puisque entre deux je me rendais malade je m'étais rendue malade de pas m'écouter en fait physiquement. Donc il a fallu que je prenne ce temps d'écoute de moi-même pour retrouver une santé et pour me rendre compte que j'avais mon atelier de reliure, j'étais mariée, 2 enfants, mais il y avait sans doute des choses que j'avais occultées. Et l'autre chose aussi, c'est qu'entre deux j'avais fait une EMI, une expérience de mort imminente avec le tunnel et tout ça. À l'époque, j'en ai pas du tout parlé. J'en ai pas parlé parce que j'étais pas à l'aise avec cette idée pendant longtemps. Donc, j'osais pas en parler. Et de pas en parler, en fait, je me suis occultée à moi-même le fait que j'avais sans doute des choses à en apprendre de cette EMI. Et au lieu de ça, pendant 10 ans, je pense que j'ai fait une belle dépression, je me suis levée tous les matins en me disant, pourvu que la journée soit belle, pour pas que j'ai envie d'y retourner.
Dans le tunnel.
Et donc, malgré mes enfants, malgré une vie qui paraissait super bien, malgré ça, ça ne suffisait pas. Et le jour où j'ai réalisé que mon EMI n'était pas un problème, c'était quelque chose, c'était plutôt un enrichissement de moi-même, ce jour-là, j'ai vraiment vécu une renaissance. Et j'ai commencé à en parler, à m'exprimer, à sortir tout. Ça sortait comme si j'avais pas parlé pendant 15 ans, quoi. Et c'était vraiment le cas, d'ailleurs. J'avais pas parlé pendant toutes ces années. Et quand c'est sorti, j'ai réalisé qu'on me prenait telle que j'étais, d'abord. Mmh. Et c'est là où mes intuitions sont revenues. Mes perceptions sont revenues.
Et aujourd'hui, je te coupe, mais il y a de plus en plus de personnes qui osent parler de leurs expériences comme ça, de mort imminente, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont compris, des messages qu'ils ont reçus. Certains en ont fait des livres, hein. Ouais.
Exactement. Mmh. Sauf que chez moi, j'avais pas la télévision. J'ai pas la télé depuis 15 ans, même 16. Mmh. Et donc, je m'étais tenue loin. Et comme je voulais pas en entendre parler, je m'étais tenue loin de tout ça, quoi.
Tu t'es coupée de cette info-là.
Complètement. Mmh. Et du coup, à partir de là, tout s'est redéclenché. Et aujourd'hui, je me lève le matin et je me dis, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Déjà, ça change tout. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec ma sœur, qui était déjà thérapeute depuis plusieurs années.
Ouais.
Et en travaillant avec elle, on s'est rendu compte qu'on pouvait aider les gens, en fait, à se débloquer de peur, de blocage qu'ils pouvaient avoir dans leur vie. En travaillant pour ces personnes sur photo, on travaille sur photo, en fait, on voit autour d'elles les blocages qu'elles peuvent avoir et on les aide à les débloquer et ensuite on leur fait un compte-rendu.
D'accord.
Voilà. Et donc, en faisant ça, on aidait ces personnes à s'alléger. Et en fait, en travaillant ensemble aussi, ça checkait. Et donc, ça permettait d'avancer. Et on tombait sur les blocages des personnes sans les connaître.
Donc, ta sœur aussi a des perceptions comme ça?
Oui.
Ouais, d'accord.
Donc, ensemble, on a créé une association qui s'appelle Bizawake. Bizawake pour... ça s'écrit Bizawake,
ouais,
pour Awake en anglais.
D'accord.
Pour réveil, éveil. Ouais. Et bis parce qu'on est deux, donc fois deux.
D'accord.
Bis awake.
C'est le deuxième éveil, deux réveils en même temps.
Deux réveils en même temps. Exactement.
D'accord.
Donc ça, c'est toutes les deux. Et donc aujourd'hui, on aide des personnes à s'alléger de leur blocage. Puis on fait aussi donc des méditations, ça vous l'aviez compris. Et on fait aussi des ateliers où on donne nos outils, où on confie nos outils pour aider le maximum de personnes à s'alléger.
D'accord.
Donc on fait un atelier par exemple qui s'appelle j'apprends à me ressourcer énergétiquement, par exemple. Et donc là en fait ça va tout simplement être des outils concrets de tous les jours pour que la personne elle puisse gérer son stress au travail, qu'elle puisse se gérer à la maison dans son quotidien tout en se ressourçant et en étant plus apaisée.
D'accord. Donc c'est pas forcément des ateliers hyper spirituels, ça peut être des choses très avec des conseils très concrets pour le quotidien.
Alors on part de quelque chose qui est spirituel parce qu'il y en a un où justement on aide les personnes qui voient les âmes défuntes mais qui savent pas quoi faire. On les aide à comprendre ce qui se passe et à comment faire pour les aider à partir.
D'accord.
Et donc on est dans un sujet spirituel. Mais pourtant, les outils qu'on a mis en place sont concrets et tactiles.
D'accord.
Ouais, vraiment, parce que pour nous, c'est important d'être dans le concret. Et de sortir aussi des tabous, de sortir des non-dits, et de sortir d'une notion de, c'est pas parce que je vois des choses que tu ne vois pas, que j'ai plus de pouvoir sur toi. Non. Je vois des choses que tu vois pas, mais je vais t'aider à les voir.
C'est aussi participer à aider les personnes qui se croient folles. Ou différente, ou singulière, ou pas comme il faut, déviante, à se sentir comme tout le monde et à l'aise, parce qu'en fait, on a chacun des facultés particulières.
Exact.
Dont on a plus ou moins conscience, d'ailleurs.
Exactement. À se retrouver, en fait, et à être comprise, non pas pour forcément abonder dans leur sens, mais juste qu'elles se comprennent mieux pour aller mieux avec elles-mêmes, en fait. Tout simplement, et que ça les apaise.
D'accord, ok.
Voilà.
Alors, toutes ces activités que vous proposez par le biais de l'association, il y a un programme. Comment on fait pour être au courant de tout ce qui se passe c'est dans le Gers, hein, c'est là, sur ta localité.
C'est même Haute-Garonne.
D'accord.
C'est surtout beaucoup à Carbonne.
D'accord.
Dans le sud de Toulouse. Et donc, il faut aller sur www.bizawake.com.
D'accord. Donc, voilà, on répète, Bizawake.
Voilà.
Ok, et donc là, on a accès aux ateliers et puis aux méditations.
Ah oui, on travaille aussi beaucoup avec les sons, c'est ça que j'ai pas dit, on est sonothérapeutes toutes les deux. Et on travaille beaucoup avec les sons pour aider pour faciliter en fait le travail de justement de méditation pour déconnecter plus rapidement, pour se poser et s'apaiser plus rapidement. On travaille avec les sons qui aident le cerveau à qui favorisent les connexions en fait entre les deux cerveaux et qui aident le cerveau à s'apaiser, à faire comme une bouteille de jus de pomme qui aurait sa pulpe qui vient se mettre au fond de la bouteille.
Ça décante.
Ça décante.
Avec des bols tibétains, j'imagine, des
bols tibétains, bols chantants, tambours, shruti box, des choses moins connues aussi. Shruti box, didgeridoo, tong drum, entre autres. J'allais dire clochette, oui c'est ça, clochette, carillon. Voilà, pas mal de... On a été formé par Catherine Darbor, justement, et Chandy Phonique aussi.
D'accord. Voilà. Et donc, il y a des, j'imagine, des ateliers ponctuels et ensuite des activités auxquelles on s'inscrit et tout qui sont régulières, récurrentes dans l'année.
Voilà, les méditations, c'est tous les mois. Et les ateliers, c'est à peu près tous les deux mois. Voilà. Et ensuite, on fait aussi des petits séjours de ressourcement. Voilà, on revient là, par exemple, de 3 jours dans les Corbières.
D'accord.
Dans le garage.
Ok. Alors, on parlait de féminin tout à l'heure. On a commencé avec une bonne nouvelle qui nous parlait du féminin et du masculin et comment on pouvait harmoniser ces deux forces, on va dire, et dans le même individu et dans la société. Alors, ma question, c'est serait-ce le rôle des femmes du futur que de proposer cette forme de libération, d'allègement énergétique de l'être humain?
Alors, je pense que c'est les femmes, mais aussi les hommes quand même. Il y a les deux parce qu'il faut les deux. Et je pense qu'en tout cas aujourd'hui, en tant que femme, on prend les choses peut-être plus à bras le corps et on y va sans se poser de questions. Et je pense que oui, c'est vraiment là pour aider l'humain de demain. Ça, c'est clair. Par exemple, le fait que aujourd'hui, moi, je m'assume de plus en plus en tant que relieuse et finalement en thérapie, sans avoir suivi un cursus classique. Je pense que nos mères, je sais pas si elles l'auraient osé. En tout cas, certaines l'ont osé, mais elles étaient peu. Donc, on va être de plus en plus nombreuses. Et c'est clair que ça commence par le féminin et le masculin va suivre. J'en suis sûre, ils sont déjà en train de suivre. Donc, mais a priori, on fait partie des moteurs, effectivement. Donc, faut pas hésiter en tant que femme à s'affirmer telle que l'on est. Et à notre grande surprise, on est pris tel, on nous regarde vraiment. Et plus derrière ce qu'on aurait aimé voir de nous.
Oui. En fait. On est pris tel au que sérieux avec tout ce qu'on emmène de différent.
Exact. Tel que l'on est, même si parfois on est radicalement différente. le fait d'assumer, en fait, puis du coup, ça encourage aussi d'autres à le faire. Mais le fait d'assumer ça, oui, c'est de plus en plus respecté aujourd'hui. Ouais. Et je suis sûre que ça entraîne. C'est comme une pelote, on commence avec le fil et puis on emmène la pelote avec.
Exactement. Alors justement, nous allons parler d'une femme. C'est la rubrique « Je partage ». Et oui, dans un esprit de partage, de collaboration, chaque invité en fin d'émission peut mettre à l'honneur une autre personne que lui-même. Et toi, Alexandra, tu as décidé de mettre une autre femme à l'honneur.
Oui, quand tu m'as posé la question, Dorothée, la première qui m'est venue, donc comme j'ai décidé de maintenant écouter mes intuitions, la première qui m'est venue, c'est ma sœur. C'est pas pour parler parce que c'est ma sœur et que c'est la famille, mais c'est juste parce que c'est une femme assez incroyable.
Elle s'appelle Emma.
Elle s'appelle Emma, Emma Faucht. Elle est thérapeute depuis 16 ans maintenant. À la base, elle a un DEA en biologie. Et donc, elle est scientifique, complètement. Et elle a du magnétisme depuis qu'elle est toute petite. Elle savait pas quoi faire, donc elle s'est occupée d'abord des animaux. C'est pour ça qu'elle était en biologie. Et suite au décès de maman, justement, elle a décidé de s'occuper des humains. Et là, donc, elle a fait son cabinet. À l'époque, il y a 16 ans en arrière, elle est devenue naturopathe réflexologue. Il y en avait pas beaucoup à ce moment-là. Donc, elle a fait son trou.
Elle a été précurseur.
Ouais, c'est ça, vraiment. Et ensuite, elle est devenue kinésiologue, homéopathe, iridologue. Enfin, elle a, en permanence, elle s'est formée tout le temps, finalement. Et je reconnais, en tout cas, sa force et son courage. D'avoir osé et de ne pas prêter attention au regard des autres. Et donc, aujourd'hui, donc après 15 ans, enfin même 16, je crois, son cabinet tournait, parce que donc elle vient de franchir une nouvelle étape, donc là, je reconnais encore son courage, tourner à fond les ballons, voilà, tellement que ça fait 3 ans qu'elle prenait pas de nouveaux patients. Enfin, vraiment quelque chose d'assez incroyable, avec des résultats incroyables, c'est ça surtout. Une bonne réputation et tout ça. Et là, en fait, elle a décidé de tout arrêter pour se consacrer à Bisawake et pour faire une thérapie autrement, plus intuitive, plus... Donc ça, plus elle se consacre maintenant à la transmission, puisque ça fait déjà plusieurs sessions qu'elle fait, mais elle est professeure de réflexologie, elle a des stages, et kinésiologie aussi. Et donc, du coup, elle a décidé de se consacrer à la transmission et à une autre forme de soins, des soins plus en groupe aussi, plus elle croit vraiment dans le partage de ensemble.
Ouais.
Voilà, en cabinet il se passe des choses, mais ensemble c'est multiplié quoi.
D'accord.
Donc elle a décidé de tout arrêter alors que ça marchait très bien pour se consacrer à une autre forme de thérapie. Et voilà,
tu salues son courage et sa force, son esprit d'aventurière.
Complètement, et même dans sa vie personnelle.
Tu m'as dit, elle est bienveillante et tranchante. Et j'ai bien aimé, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que veut nous dire Alexandra par là? Pourquoi parler de bienveillance et en même temps de cet esprit tranché, donc un peu radical? À un moment, on décide, on n'est pas uniquement dans un consensus mou, qu'on peut reprocher un peu aux thérapeutes alternatifs. Ah, t'es dans la bienveillance, ça veut dire que finalement, t'es dans le relativisme et tout s'accepte. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand elle est bienveillante et tranchante.
Alors, elle est bienveillante, bien, je pense, comme tu viens de l'expliquer. Ouais, c'est-à-dire que même elle est à l'écoute, elle a une patience qui est juste incroyable avec les enfants comme les adultes ou les personnes âgées. Et vraiment, donc c'est ça que ses patients apprécient. Mais aussi, elle est tranchante, c'est-à-dire qu'il y a à un moment donné, il n'y a plus à tergiverser. C'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Et t'y vas, bah t'y vas pas, bah tant pis, quoi. Enfin, elle peut pas te soutenir ou te porter à bout de bras. Voilà. Et aussi, elle va au bout. C'est-à-dire que quand elle est en thérapie avec quelqu'un, elle va au bout et elle, ça tergiverse pas. C'est-à-dire, les mots, ils sont dits. Vraiment. Pour de vrai. Et même dans la vie privée, hein. Les mots, ils sont dits pour de vrai. Et après, on passe à autre chose. Mais c'est franc. C'est franc, et je crois que dans ces moments-là, je suis même pas sûre qu'elle s'en rende vraiment compte, c'est direct, en fait. Et je crois que c'est ça aussi que ces patients apprécient, parce qu'il y a des moments, ça fait bien avancer.
C'est aidant.
C'est ça. Et du coup, elle soutient par cette méthode-là, qui lui est propre, hein. Voilà. Mais elle peut être tranchante, elle a un côté guerrière. Et voilà. qui ressort, de tous les côtés, en fait.
Ok, merci pour ces explications, Alexandra. On comprend qu'à vos côtés, avec vos multiples compétences et toute votre créativité, la vie doit prendre de jolies couleurs. Alors ça tombe bien parce qu'on écoute une chanson arc-en-ciel.
Lemon drops high above the chimney top. That's where
Over the Rainbow, une chanson d'Israël, Kamaka Wiwo Ole, choisie par Alexandra, mon invitée dans Ondes Positives, Alexandra Focht. Alors, tu veux nous dire quelques mots sur ce choix de chanson?
Oui, que au-delà de l'arc-en-ciel, enfin voilà, faut pas hésiter à passer les arcs-en-ciel. Voilà. Et c'est une chanson que mon mari chante souvent aux enfants. Et je le remercie du coup parce que il me fait souvenir que c'est important d'aller voir les oiseaux bleus qu'il y a derrière les arcs-en-ciel. Nous, il faut pas oublier ça.
Voilà. Ah, alors dorénavant quand je l'écouterai, je penserai à ça. Merci d'avoir amené Alexandra ton empathie, ton authenticité, ta vérité, ta magie à Montauban aujourd'hui. Alors on rappelle tes coordonnées, hein, donc l'association Bisawake, bisawake.com, et puis ta page Facebook Relis-moi, atelier de reliure. Merci beaucoup pour ton témoignage et tes messages positifs.
Merci Dorothée.
Voilà chers auditeurs, et vous, que faites-vous pour vous alléger et prendre votre envol? À méditer cette semaine. Je vous rappelle que cette émission sera rediffusée dimanche à 20h et je vous rappelle aussi qu'à votre tour, vous pouvez venir au micro d'Ondes Positives pour partager vos messages positifs. Il suffit pour cela de me contacter. Je suis Dorothée Alliot et mon mail est dag@saccomplir.com. Je vous souhaite une très belle semaine, toute légère, et à mardi prochain.
Trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where